Le pouvoir de la transformation, première partie. Introduction par Mike et Marilyn Philippe.
Bienvenue à la semaine 11, le pouvoir de la transformation. Au cours des 10 dernières semaines, nous avons examiné la parole de Dieu et nos vies, et ce que nous voulons faire, c'est vous montrer très clairement ce que vous avez fait dans le passé et ce que Jésus voudrait que vous fassiez à l'avenir.
Et cette semaine aussi, nous nous penchons sur le rôle étonnant du Saint-Esprit dans notre mariage. Amen. Ses dons et ses fruits, et comment cela aide à apporter cette transformation dans notre relation.
Bienvenue. Nous sommes Brent et Pam Grianley, et nous allons enseigner et donner des exemples du pouvoir de la transformation.
Nous sommes mariés depuis près de 50 ans. C'est long. Nous avons beaucoup d'histoires sur la façon dont nous avons démontré des modes de vie à la fois pieux et impies.
Il y a des années, Marilyn et Michael ont eu la vision d'un million de lumières scintillantes partout dans le monde, dans chaque quartier.
Ces lumières représentaient de puissantes maisons chrétiennes. Mais pour marcher dans cette lumière, nous devons avoir le pouvoir de changer et de grandir à la fois individuellement et en tant que couple marié. Et c'est de cela qu'il s'agit dans cette leçon. Cependant, il y a certaines choses que l'ennemi apporte qui nous empêchent de grandir. Nous allons donc d'abord en parler.
Quand l'obscurité arrive, nous devons la reconnaître. Et puis, quand nous le reconnaissons, nous pouvons y faire face. Nous examinons donc les schémas de vie que nous avons pu avoir dans nos vies. Maintenant, nous allons voir comment vous identifier un modèle de vie. J'ai grandi dans un foyer où il n'y avait pas d'émotions, nous ne partagions pas nos sentiments. Tout le monde s'occupait de lui-même. J'ai donc grandi en ne montrant pas mes émotions et, bien sûr, en niant beaucoup de ce qui se passait. J'ai juste tout mis en bouteille à l'intérieur. C'est donc un exemple d'un modèle de vie qui se transmet de génération en génération. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de modèles de vie. Un exemple serait Abraham et Sarah dans Genèse chapitre 20. Abraham a menti en disant que Sarah était sa femme. Il a dit qu'elle était sa sœur.
Et puis, Genèse 26, cet Isaac, fils d'Abraham, a menti au sujet de Rebecca qui était sa femme, et il a dit qu'elle était sa sœur.
Et dans le chapitre 27 de la Genèse, Jacob a trompé son père afin d'obtenir la bénédiction.
Et dans le chapitre 37 de la Genèse, les fils de Jacob ont vendu Joseph comme esclave et ont menti sur sa mort. C'est un exemple d'un modèle de vie de mensonge et de tromperie à travers les générations.
Quelques autres modèles de vie que j'ai reçus de ma famille. Mon oncle Ray, le seul frère de mon père, a divorcé et a épousé Tante Otsi. Et donc, ils n'ont jamais eu d'enfant et donc ils m'ont aimé. Je veux dire, ils m'achetaient des bottes de cow-boy et tout ce genre de choses. Et ma mère et mon père disaient, waouh, c'est vraiment un bon pas en avant. Ray a divorcé et maintenant, regardez, il a une belle femme. Donc, vous savez, j'ai pris cela, j'y ai cru. Et puis ma sœur, qui a 8 ans de plus que moi, est tombée enceinte au lycée et c'était un gars qui venait juste de passer par la ville et il était plus âgé mais gagnait beaucoup d'argent et la traitait gentiment. Ils ont donc été mariés pendant 3 ou 4 ans et ils ont divorcé et elle a épousé un gars vraiment sympa la deuxième fois. Ma famille était vraiment heureuse. J'ai aussi mis une fille enceinte au lycée. J'avais 17 ans. Nous nous sommes donc mariés. Nous avons essayé de faire en sorte que cela fonctionne, mais ma famille est venue et a dit, « Oh, ça ne va pas marcher. Vous feriez mieux de l'arrêter maintenant. » Et au fond d'eux-mêmes, ils pensaient que je pouvais me marier, pour ainsi dire. C'était donc un modèle de vie que j'avais en grandissant. Divorce. Divorce. Divorce.
La mère de mon père vivait dans le Minnesota et son mari, le père de mon père, a décidé d'aller au Canada et de trouver un emploi dans les chemins de fer et a dit, « Allez, nous allons élever la famille là-bas », et elle a refusé d'y aller et a divorcé. C'était donc le premier divorce. Ensuite, mon frère, pendant la guerre du Vietnam, a décidé de se marier pour éviter la conscription, alors il a divorcé de sa femme quand cela n'a pas fonctionné, puis je me suis mariée et mon mari m'a trompée, alors j'ai divorcé. Et donc c'est juste un schéma de divorce, de divorce, de divorce.
Un autre modèle de vie qui m'a été inculqué était que mon père était dans la loge maçonnique et qu'il était un enseignant pour les hommes. Eh bien, j'ai vu mon père donner de l'attention aux autres, alors j'ai pensé, eh bien, si je veux attirer l'attention de mon père, vous savez que je devrais être dans la loge maçonnique. Donc, dès que j'ai eu 21 ans, j'étais éligible et j'ai rejoint la loge maçonnique. J'étais loin de me douter à quel point c'était impie à l'époque, mais tout ce qui ne reflète pas Jésus, bien sûr, est impie.
J'étais infirmière dans un hôpital psychiatrique pour enfants âgés de 6 à 16 ans. Nous évaluions les enfants, puis lorsqu'ils étaient là depuis 6 mois à 1 an, nous laissions les parents venir et nous essayions de rétablir une relation saine. Nous étions donc en train d'évaluer une jeune adolescente et ses visites avec les parents et toute l'équipe était là, les médecins, les travailleurs sociaux, tout le monde. Nous avons donc observé cela pendant environ une heure et après j'ai pensé qu'ils s'entendaient très bien, qu'ils étaient drôles, qu'ils plaisantaient. Cela avait l'air d'être une très bonne visite. Alors, nous nous sommes assis dans la réunion et tout le monde a dit « Avez-vous vu à quel point c'était douloureux ? Avez-vous vu comment ils se sont moqués d'elle ? Avez-vous vu comment ils l'ont rabaissée ? Avez-vous vu comment ils l'appelaient par son nom ?» Et je me suis dit « Je n'ai rien vu de tout cela. » Et puis j'ai pensé « Oh, je venais d'une famille dysfonctionnelle et je ne le savais même pas. » Ainsi, vous pouvez obtenir un modèle de vie simplement en regardant des dessins animés ou en regardant des vidéos ou quoi que ce soit. J'avais l'habitude de regarder Peter Pan quand j'étais enfant, et je le trouvais génial. Il m'a dit de ne jamais grandir, de passer un bon moment, de jouer, de jouer, de jouer. C'était donc une sorte de scénario de vie que j'avais. Et puis, quand j'avais 16 ans, je lisais autant en emporte le vent. Oh, je me suis vraiment identifiée à Scarlett O'Hara. J'ai trouvé qu'elle était vraiment géniale. Et elle avait l'habitude de dire, « Je ne vais pas penser à ça aujourd'hui. J'y penserai demain. » Alors, quand mon père est mort, je me suis dit que je n'y penserai pas aujourd'hui. J'y penserai demain. Je l'ai donc mis en bouteille à l'intérieur et ce n'était pas sain. Les modèles de vie peuvent être formés dans notre famille d'origine où nous pouvons créer les nôtres.
L'un des modèles de vie que j'ai imposé venait de Johnny Cash. Je me baignais dans le bain et je chantais « Si tu me vois venir, tu t'écartes ». Beaucoup d'hommes ne l'ont pas fait et beaucoup d'hommes sont morts. Une autre était de vivre dur et vite, de mourir jeune et de faire un beau cadavre. Donc, ayant cela comme objectif, j'étais très impie.
C'est pourquoi nous devons découvrir quels sont ces modèles de vie afin de pouvoir les révéler et ensuite les traiter. Révéler, traiter, puis guérir. Et nous allons parler de la façon de guérir.
Avez-vous commencé à voir certains de vos propres schémas de vie? Partagez les uns avec les autres ce que vous voyez.
Le pouvoir de la transformation, partie 2. Ce dont nous parlons ici, ce sont des modèles de vie impies. Et puis les modèles de vie pieux. Maintenant, la grande différence entre impies et pieux, c'est que les modèles de vie pieux suivent la parole de Dieu. Donc, si vous voulez avoir des modèles de vie pieux, vous devez suivre la parole de Dieu. Et si vous ne le faites pas et que vous suivez le monde, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'être la vérité de l'Évangile, vous croyez un mensonge. Donc, si vous suivez la vérité, c'est la vraie norme. Et si vous suivez le monde, vous allez croire au mensonge. Et la Bible dit que vous ne voulez pas laisser le monde vous enfermer dans son moule. Et pour avoir des modèles de vie pieux, nous devons nous tourner vers la parole de Dieu. Maintenant, ce qui est cool, c'est que lorsque vous opérez selon des principes et des modèles divins, alors vous deviendrez une équipe forte d'une seule chair. Et parce que la Bible dit que lorsque nous partons et que nous nous attachons, les deux ne font plus qu'un. Il s'agit donc d'une unité de chair unique. Rien ne peut s'interposer entre nous. Vous ne pouvez même pas avoir un bout de papier entre nous. Mais parfois, ce qui se passe, c'est que le péché entre et déforme la façon dont nous sommes en relation. Donc, quand je viens à Brent et que je veux avoir mon câlin de chair unique,
je dévie. Au lieu de s'étreindre face à face, je la dévie sur le côté. Nous sommes toujours en train de nous embrasser. Nous avons toujours l'air bien pour notre famille, notre église, nos entreprises dans lesquelles nous sommes. Mais il n'y a tout simplement pas d'intimité dans notre relation à cause de mon péché sexuel non avoué.
En tant que femme, nous savons quand quelque chose ne va pas. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous pouvez dire quand quelque chose ne va pas entre vous. Les gens disent : ce que vous ne savez pas ne vous fera pas de mal. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Parce que ce que vous ne savez pas peut vous blesser, parce que cela déforme et s'insinue et provoque un manque de confiance. Et cela fait que nous ne sommes pas vraiment une seule chair.
Nous avons eu un poulet mort puant de péché non confessé dans notre vie. Lorsque nous avons décidé de nous former en tant que leader et de former un groupe, nous sommes allés à un week-end de formation et le professeur parlait d'intimité physique. Le mari disait, « Eh bien, vous savez, l'adultère est définitivement un péché sexuel. » Et je me suis dit, « Oui, c'est vrai. Ne commettez pas d'adultère. » Vous savez, l'homosexualité ou le fait de préférer d'autres partenaires de cette façon et la pornographie est un péché. Et non, je ne l'ai pas fait. Et l'inceste est un péché. Non, il n'y a pas d'inceste. Et puis il a dit masturbation et j'ai senti mes oreilles devenir rouge vif. Et je n'ai rien dit à Pam à ce moment-là parce que nous étions dans la classe. Donc, ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison et que nous avons fait nos devoirs, j'ai dû dire, Pam, je dois vous avouer quelque chose. Alors je lui avoue la masturbation. Et elle m'a pardonné. C'est aussi simple que cela. C'était beaucoup plus simple, vous savez, que je ne le pensais et le timing était parfait.
D'accord. Alors après avoir été mariés pendant plusieurs années, notre entreprise est devenue très occupée. Nous étions occupés à élever des enfants et je n'avais pas autant de temps pour Brent. Et notre intimité sexuelle a commencé à en souffrir.
Donc, ce qui s'est passé, c'est cette habitude, ce péché de masturbation, ce poulet mort puant qui s'est glissé à nouveau. Et donc je me suis fait prendre. En fait, je ne l'ai pas avoué, mais je me suis fait prendre. J'ai donc dû me repentir à nouveau auprès de Pam.
Donc, parfois, un péché continu se produit et vous devez répéter tout le processus. Alors il s'est repenti et je lui ai pardonné. Maintenant, il n'est pas toujours nécessaire que ce soit une chose sexuelle. Il peut s'agir, vous savez, de se crier dessus ou d'être silencieux et de ne pas communiquer du tout. Quand je suis au travail et que je m'impatiente, j'essaie juste de faire en sorte que Brent se dépêche et j'élève la voix et je deviens dur avec lui. C'est un péché. C'est tout autant un péché que le fait qu'il commette un péché sexuel ou qu'il se satisfasse lui-même à la place de son conjoint. Ainsi donc, je dois me repentir. Proverbe 15, 1 dit, une réponse douce détourne la colère. Il s'agit donc de prendre la parole de Dieu, de l'appliquer et ensuite de se repentir. Maintenant, quand je lui crie dessus, il se blesse.
Donc, ce que j'ai tendance à faire, c'est fermer mon esprit, vous savez, ne pas m'identifier et ne pas vouloir lui parler. Et c'est du ressentiment, et c'est du manque de pardon. Mais cela met définitivement fin à la relation. Et cela vous ouvre au tourment du malin. Pensée négative, dépression et pensée de vengeance.
Alors je me repens devant lui et je lui dis, « Je suis désolée de t'avoir crié dessus. » Et puis il est capable de me pardonner. 1 Jean 1, 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » C'est donc la chose dont vous devez vous souvenir. Le poulet mort du péché caché affecte l'intimité de votre seule chair, même lorsque votre conjoint ne le sait pas.
Et pendant que vous regardez vos modèles de vie, traitez-les et prenez autorité sur eux au nom de Jésus. Vous voulez vous repentir de vos péchés. C'est un péché permanent. Vous voulez vous repentir d'un péché dans le passé. Mais vous devez faire attention au moment de la confession à votre conjoint. Vous ne voulez pas simplement le décharger sur votre conjoint. Mais priez pour que Dieu vous donne le bon moment et le bon endroit et qu'il soit reçu. Le but de tout cela, bien sûr, est d'être guéri.
Et vous devez confesser vos péchés les uns aux autres afin d'être guéri. C'est donc la partie la plus importante. Mais il est dit dans Marc 4, 22 que tout ce qui est caché ou secret finira par être mis en lumière. Et tout cela, c'est qu'il est amené à la lumière, puis il le révèle. Ensuite, vous le sentez. Vous parlez de vos émotions, de la blessure, de la douleur et du rejet. Ensuite, vous vous en occupez, et c'est la chose la plus importante. Vous pouvez sentir cela guérir, mais si vous ne vous en occupez pas, vous n'allez pas être guéri. Vous devez vous en occuper, l'apporter au Seigneur. Dis donc, d'accord, j'avais des habitudes de vie impies. Je veux changer. Je veux grandir. Je vais en parler à Dieu et il va me guérir. Et c'est là tout le secret, c'est d'apporter cela à Dieu.
Mais une chose que vous ne voulez pas faire, c'est de le laisser vous diviser en tant que couple. Oh oui. Et ce qui nous est arrivé, c'est que nous partions en vacances sur un bateau. Avant de monter à bord du navire, nous avons rendu visite à mon fils issu de mon premier mariage en Californie, qui était marié depuis un an.
C'était la Saint-Valentin et nous allions fêter leur anniversaire et ensuite faire cette croisière avec nos 3 autres enfants. Et nous l'attendions avec impatience. Nous avons donc passé un peu de temps avec eux, mais en nous éloignant, nous avons reconnu que leur mariage était en difficulté. Mais avant la croisière, quand nous faisions nos valises,
Pam a emballé 3 ensembles différents de sous-vêtements spéciaux pour femmes, donc j'avais des attentes en matière d'intimité sexuelle lorsque nous étions sur ce bateau de croisière. J'avais de grands espoirs que cette croisière allait être la meilleure chose. Après cette rencontre avec mon fils, j'ai voulu le nier. Je ne voulais pas le sentir. Je voulais continuer comme d'habitude. Mais Pam,
je me sentais mal. J'étais tellement peinée par l'échec du mariage du fils de Brent. J'étais tout simplement vide. Et donc, quand Brent m'a approchée, pour l'intimité sexuelle, j'ai dit, je n'étais tout simplement pas d'humeur. Alors, le lendemain, nous avons eu notre temps de prière sur le pont. C'était une belle journée. Nous sommes là-bas. Et je me suis dit, ok, je vais remettre cela au Seigneur. Nous allons prier ensemble. Ça va être merveilleux. Tout ira bien. Alors il se met à prier, et c'est ce qu'il a prié.
Au Seigneur, aide ma femme à avoir une intimité sexuelle avec moi. Au Seigneur, aide ma femme à me désirer.
S'il y avait eu un toit, je l'aurais frappé. Je pensais que tu étais insensible. Je me sens mal pour ton fils et tu ne sais même pas ce que je ressens. Et tout ce à quoi tu penses, c'est au sexe et nous nous sommes lancés dans cette grosse dispute.
Et il a pris de l'ampleur. Je l'ai agrandi. Finalement, j'ai fermé mon esprit. J'avais du ressentiment et j'étais impitoyable.
Je suis allée vers le Seigneur et j'ai dit, que Dieu me pardonne, j'ai vraiment rejeté mon mari. Je peux dire qu'il est vraiment blessé et donc je l'ai approché sexuellement et il m'a rejeté.
J'allais dans le terrier du lapin du diable. Je vais vous dire, j'étais juste tout maussade et en colère. Le lendemain matin, nous nous sommes levés et nous étions censés quitter le navire et passer un bon moment avec nos enfants et
nous avions là-dedans ce poulet mort de péché non confessé. Et nous faisions semblant que tout allait bien. Oh, nous allons passer un bon moment.
Mais nos enfants l'ont dit. Maman et papa, qu'est-ce qui se passe entre vous deux?
J'avais aussi ce poulet mort de péché non confessé. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en colère contre toi parce que tu étais en colère contre moi. Nous étions donc tous les deux dans le péché.
Et l'une des choses que nous avons faites en tant que famille, c'est que nous ne quittions jamais la maison s'il y avait des problèmes non réglés entre nous. C'est ce qu'ont dit les enfants. Nous ne descendrons pas du navire. Nous allons rester ici jusqu'à ce que vous ayez résolu ce problème. Alors Pam et moi sommes allés à la bibliothèque et nous avons fait notre temps de prière ensemble, et cela inclut, comme vous le savez, le pardon. Et ainsi, nous avons pu nous repentir les uns aux autres. Pardonnez-vous les uns aux autres et descendez du navire pour passer un bon moment en famille. Mais parfois, les choses viennent de l'extérieur et vous devez en être conscient et y faire face également. Mais ne le laissez pas vous diviser et vous conquérir.
Un autre modèle de vie peut être la façon dont nous réagissons aux événements ou aux circonstances qui se présentent à nous. Une autre chose qui est venue de l'extérieur, c'est que notre fils Spencer vivait en Floride. Lui et sa femme allaient avoir leur premier bébé et nous allions tous descendre et profiter de ce temps avec eux. Et il est mort subitement au milieu de la nuit et nous ne nous attendions pas à ça. Nous ne savions pas que cela allait arriver. C'était une malformation cardiaque rare et cela a eu un coup sur notre mariage, parce que nous souffrions tous les deux tellement que nous ne pouvions pas répondre aux besoins de l'autre et que nous étions à notre point le plus faible émotionnellement. Et donc nous avons dû apprendre à vraiment nous donner les uns aux autres beaucoup de miséricorde et de grâce pendant cette période.
Et la seule chose que je pouvais dire, c'est que nous devons simplement faire confiance à Dieu. Nous devons simplement faire confiance à Dieu. Mais au fil des mois, vous savez, c'était toujours aussi frais que lorsque c'est arrivé. Et vous savez, Pam pleurait et j'avais envie de regarder la télévision ou quoi que ce soit d'autre que de ressentir mes sentiments. Nous avons donc dû travailler dur pour nous unir sur le point de blesser. Vous devez vous rassembler dans l'unité lorsque vous êtes blessé.
Le pouvoir de la transformation, partie 3. Le mariage est donc le terrain d'entraînement pour le développement du caractère. L'amour est aveugle, mais le mariage est la révélation, et le mariage révèle les faiblesses. L'alliance nous aide à les supporter. A déclaré Dietrich Bonhoeffer. ce n'est pas votre amour qui soutient le mariage, mais le mariage qui soutient l'amour.
Dieu a une direction pour toutes nos vies et il a un plan A. Il n'a pas de plan B.
La parole de Dieu est notre étendard. Mais nous n'avons pas été à la hauteur de ses normes. Comme quand j'ai dû me repentir de ne pas avoir été patient. Proverbe 15, 1 dit, une réponse douce détourne la colère. Donc, si vous avez raté la cible et que vous n'avez pas été à la hauteur de ses normes, alors il y a de l'espoir. Vous jugez simplement votre vie selon la norme de Dieu. Sa parole. Et là où vous n'êtes pas à la hauteur, vous vous repentez. 2 Timothée 3, 16 dit. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et sont utiles pour enseigner, réprimander, corriger et instruire dans la justice. Vous devez donc appliquer la parole de Dieu comme norme. Non pas ce que votre famille pense ou ce que vous pensez, mais ce que dit la parole de Dieu. Vous souvenez-vous de l'époque où Brent parlait de la masturbation? J'étais très occupée. Je ne faisais pas attention à lui. Il a donc pris une décision et a justifié ce qu'il faisait parce qu'il l'a dit. Si elle ne répond pas à mes besoins, je répondrai aux miens. C'est donc une justification. Lorsque vous justifiez votre péché, ce qui se passe, c'est que vous le justifiez vous-même, et vous n'êtes pas justifié par Dieu. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez être condamné parce que vous le justifiez. Maintenant, si vous vous repentez, alors vous revenez carrément à la norme de Dieu et c'est lui qui vous justifiera, juste comme si vous n'aviez jamais péché. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est le nouveau plan A.
Alors que nous nous repentons. Alors, ce que Dieu fait, c'est qu'il pardonne et enlève tous nos péchés aussi loin que l'Orient l'Est de l'Ouest. Il veut nous pardonner et nous mettre en route avec un nouveau plan A et une nouvelle direction.
C'est ce qui nous est arrivé. Nous nous sommes repentis d'avoir divorcé et de nous être remariés. Avant d'être croyants, nous avons fait une alliance d'homme à homme. On s'est dit qu'on allait faire durer ce mariage. Nous n'allons pas être des échecs. Mais notre motif n'était pas le bon. Nous voulions juste réussir. Nous ne voulions pas l'échouer. Mais alors, quand nous avons fait entrer Dieu, nous avons appris que nous devions nous repentir du divorce et du remariage parce que ce n'était pas un mariage choisi par Dieu. Et donc nous nous sommes repentis et avons dit Seigneur, pardonne-nous, nous avons choisi notre propre voie, pas la tienne. Et puis, il l'a béni. Les gens disent parfois, vous avez tous les deux un bon mariage. Peut-être que je devrais divorcer et me remarier. Non. C'est une mauvaise façon de penser. C'est parce que nous nous sommes repentis et que nous avons laissé Dieu nous guérir et faire de ce mariage un mariage fort. Un mariage fort d'une seule chair.
Quand Dieu vous pardonne, il pourrait encore y avoir des conséquences à votre péché.
Ce n'est pas parce que vous avez un nouveau plan A et que vous êtes pardonné que vous n'avez pas de conséquences. Nous voyons tout le temps des choses où les enfants. Les enfants adultes de parents divorcés sont en difficulté et ils disent, oui, tout a mal tourné quand mes parents ont divorcé. Ça fait mal. Cela blesse les générations et blesse les familles, même si Dieu vous a pardonné. Nous devons encore en subir les conséquences.
Quand ma première femme et moi avons divorcé, notre enfant avait 4 ans. Et il a fallu 10 ans avant que j'aie eu le moindre contact. Je les avais vraiment abandonnés. Et donc, une fois que nous avons eu le contact, nous avons dû guérir. Dieu devait guérir toutes les blessures et toutes les déceptions. Et mon fils s'est énormément repenti de ce que j'avais fait. Comment je l'avais laissé dans cette situation, pour survivre seul sans père à la maison.
Et puis l'autre fils de Brent, qui était accro à la cocaïne et à la marijuana et qui volait des camions, était un gâchis, et nous l'avons donc amené vivre avec nous.
Le Seigneur vient d'accomplir une œuvre miraculeuse dans sa vie. Il n'a vécu avec nous que pendant environ 1 an et demi, mais il est né de nouveau pendant ce temps. Il s'est rempli de l'esprit pendant cette période, et il a vu comment une famille fonctionnait vraiment parce que nous avions 3 autres enfants. Et c'est ainsi que le Seigneur a pu travailler dans sa vie d'une manière importante.
Dieu est donc intervenu. Il est venu et a redressé le chemin tortueux et a racheté notre péché. Même s'il y a eu des conséquences.
Dieu est à 100% pour nous, même quand nous manquons la cible. Lorsque nous nous repentons et que nous sommes pardonnés, nous devons encore faire face aux conséquences de notre péché. Maintenant, nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit.
et c'est si puissant parce que lorsque vous vous abandonnez au Saint-Esprit et que vous avez le fruit de l'Esprit en vous, vous aurez l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi.
Je suis né de nouveau quand j'avais 30 ans et j'ai commencé ma recherche de Dieu et du Saint-Esprit. Je me suis retrouvé à une réunion d'hommes d'affaires du plein évangile où ils ont dit, « Pourquoi voulez-vous que nous prions ?» J'ai dit, « Eh bien, priez pour que j'aie une relation plus profonde avec Dieu. Dieu se révélerait à moi. » Alors ils ont prié pour moi. Et c'est la première fois que j'ai vu des gens prier dans l'Esprit. Et après avoir quitté cette réunion, j'ai senti la présence de Dieu dans ma voiture.
Ensuite, le Saint-Esprit a commencé à opérer dans sa vie avec le fruit de l'Esprit et peut-être même beaucoup de sagesse de la parole. Et il rentrait à la maison et il disait, « Vous savez, cela attriste le Saint-Esprit quand vous prenez son nom en vain et je ne jurerai plus. Waouh, c'est vraiment bien !» Et il dit, « Saviez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Et je ne vais plus fumer. » Alors je me dis, « Waouh, c'est vraiment bien !» Et alors, j'ai vu des changements en lui et le fruit qui poussait en lui juste à partir de ce moment-là. Mais nous n'étions pas une seule chair là-dedans. Alors j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit parce que je voyais le fruit de l'Esprit à l'œuvre dans sa vie. C'est ce que je voulais aussi. Et finalement, au fil du temps, j'ai appris à connaître le Seigneur aussi. Notre nouveau modèle de vie était donc de nous soumettre au Saint-Esprit. Mais vous savez, c'est comme le panneau de céder le passage sur la route. Cela signifie que vous n'allez pas de l'avant et que vous laissez simplement Dieu le faire. Nous avons donc appris qu'en opérant dans le fruit, nous nous battons maintenant contre le diable plutôt que les uns contre les autres.
Mais nous avons la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de faire cela, et alors nous avons les dons du Saint-Esprit.
1 Corinthiens 12, 7 à 11 dit « La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour le bénéfice de tous. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. À l'un est donné par l'Esprit un message de sagesse, à l'autre un message de connaissance par le moyen du même Esprit. À une autre fois par le même Esprit, à une autre des dons de guérison par ce seul Esprit. À une autre puissance miraculeuse, à une autre prophétie, à une autre qui distingue les esprits, à une autre qui parle en différentes sortes de langues, à une autre encore qui parle des langues. »
Mais un seul et même Esprit agit dans tout cela.
Vous opérez dans ce don quand c'est nécessaire. Et donc, vous ne pouvez pas planifier cela à l'avance si Dieu vous demande simplement de le faire. J'ai eu l'impression d'avoir entendu le Saint-Esprit me le dire à un moment donné. J'aimerais que vous alliez dans cette maison où vous étiez infirmière de la santé publique pour ce patient qui était tétraplégique. Et je me dis, oh mon Dieu, je ne peux pas prier pour que cette personne soit guérie. Cela me faisait peur parce que je venais d'apprendre les dons de l'Esprit et maintenant on me mettait au défi de les utiliser. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ici? Je suis donc allée et j'ai trouvé la maison par obéissance. C'était un miracle de trouver sa maison parce que je n'étais pas douée pour les directions. J'ai frappé à la porte et je suis allée et j'ai dit, vous savez, j'ai l'impression que le Seigneur m'a dit de venir vous rendre visite. Et ils se disent, oh, c'est si gentil et puis ils ont parlé de diverses choses. Et puis j'ai découvert que leur fille était mariée à un pompier et que leur mariage était en difficulté. Et je me suis dit que c'était pour ça que je suis ici. Alors je suis rentrée à la maison et j'ai dit, « Chérie, nous avons ce couple que nous devons inviter. » Et ils n'étaient que des bébés chrétiens. Nous avions le désir dans notre cœur d'aider les mariages à l'époque. Nous avons donc invité le pompier et sa femme et nous lui avons dit, « Vous savez, vous devez vous battre pour ce mariage. » C'était donc un exemple du don de l'esprit de sagesse et de compréhension et du fruit en quelque sorte combiné, opérant dans notre vie ensemble. Et puis nous avons décidé que notre vocation est de travailler pour aider les mariages à guérir. C'est une grande partie importante d'être chrétien, c'est d'opérer dans les dons du Saint-Esprit. Et l'essentiel, c'est que vous voulez le faire ensemble et c'est là que se trouve le pouvoir. Toutes les leçons que vous avez apprises jusqu'ici sont vraiment, vraiment importantes. Nous avons donc un exemple de boîte à outils pour vous aider à vous en souvenir.
J'aimerais vous donner l'exemple d'une boîte à outils. Tout d'abord, lorsque vous cherchez dans une boîte à outils, vous voulez obtenir le bon outil pour le bon travail. Par exemple un marteau et une vis. Eh bien, vous n'enfoncez pas de vis, ou du moins ce n'est pas très efficace. Vous utilisez un tournevis. Ainsi, Lorsque vous passez en revue votre boîte à outils, c'est-à-dire toutes les leçons que vous avez apprises, vous devez choisir la bonne leçon ou le bon outil pour le travail. Et je tiens à dire que toutes ces leçons sont bibliques. Le premier exemple est un cadenas et représente la leçon sur le pouvoir de l'Alliance. On s'enferme les uns dans les autres et on jette la clé.
Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais partout dans le monde, il y a ces ponts et ils ont des garde-corps grillagés. Et les jeunes couples auront un cadenas avec leur nom dessus, vous savez, comme Brent et Pam. Et puis ils le verrouillent sur le garde-corps et jettent la clé. Quel bel exemple de mariage d'alliance.
D'accord, nous avons ici un outil de bétonnage représentant la puissance de 2 égale 1. Nous sommes cimentés ensemble comme un seul homme. Votre conjoint n'est pas votre ennemi. Et nous devons considérer notre conjoint avant nous-mêmes, ce qui demande un peu de soumission au Saint-Esprit. Maintenant, nous avons ici 2 tournevis. Eh bien, ils sont différents, mais nous parlons du pouvoir de la synergie. L'un est ce tournevis à tête étoile, et l'autre est un tournevis à tête droite. Mais lorsque vous vous réunissez, vous pouvez faire le travail parce que vous avez des rôles et des responsabilités différents. Ne prenez donc pas le rôle de votre conjoint parce que cela ne fonctionnera tout simplement pas.
Très bien, la puissance de semer et de récolter. Leçon 4. Voici un pulvérisateur de mauvaises herbes. On nous apprend que nous semons des graines par des actions, des attitudes et des paroles. Et quand nous semons les mauvaises graines, nous avons besoin du désherbant. Et le désherbant, c'est le repentir et le pardon. Le repentir est vraiment, vraiment important.
Il s'agit d'une pince à étau. C'est donc le pouvoir du pardon. Et vous êtes libéré de l'emprise du diable lorsque vous vous confessez et vous repentez. Éphésiens 4, 2 dit, « Soyez tout à fait humbles et doux, soyez patients, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Ok, c'est une règle. Nous voulons nous aligner sur la parole de Dieu et sur la vision de Dieu pour notre vie. Et à la hauteur de la façon de penser de Dieu, pas de notre propre pensée puante. Très bien, nous avons ici un marteau en caoutchouc. C'est le pouvoir de l'intimité spirituelle. Et notre dicton, bien sûr, c'est de ne pas le mettre sur le dos. Priez pour lui. Voilà, priez ensemble. Ce triangle représente le pouvoir de l'accord. Vous pouvez voir ici, alors que nous remontons notre triangle vers Dieu au centre, nous entrons en accord avec lui. Et l'essentiel, c'est que vous devez chercher la volonté de Dieu. Et ce faisant, vous ne faites que vous rapprocher. Le pouvoir de l'intimité physique. Il s'agit d'une pince réglable. L'alliance est basée sur l'intimité et l'adaptation aux désirs et aux besoins de votre conjoint. Il s'agit d'une hache représentant le combat spirituel. Combattre l'ennemi ensemble et non l'un contre l'autre et frapper le diable à la hache.
C'est la dernière. Une lampe de poche ou une lampe de poche. C'est très important. C'est le pouvoir de la transformation, et c'est ce dont nous avons parlé. Faire briller la lumière sur le péché afin que vous puissiez le changer aussi. Et ce n'est pas suffisant pour faire briller une lumière. Je veux dire, vous pouvez avoir une lumière de sécurité. Cela va-t-il empêcher le voleur de voler dans votre maison? Non, ça va juste lui montrer ce qu'il y a à voler.
Alors que vous exposez ce péché caché. Vous le voyez et vous le coupez. Vous l'avessiez, vous arrêtez de le faire et vous vous en débarrassez pour que l'ennemi ne puisse plus voler, tuer et détruire. Et puis, la dernière chose qui est si importante, c'est d'apprendre à partager ces leçons avec vos voisins. Nous revenons aux voisins et à la vision d'un million de lumières scintillantes partout dans le monde, dans chaque quartier. Maintenant, dans la prochaine leçon, Michael et Marilyn, les fondateurs de ce ministère, vont partager comment faire cela. Et nous sommes très heureux d'entendre cela. Alors restez à l'écoute.
Cher Père, vous avez accompli une œuvre puissante. Essentiellement, nous avons reçu votre amour et votre vérité dans ces enseignements. S'il vous plaît, aidez-nous à marcher dans des façons nouvelles et bénies de penser et de vivre dans notre mariage.
Pour cultiver le fruit merveilleux de l'Esprit Saint et de ses dons beaux et puissants, transforme-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.